Donc bienvenue à cette deuxième partie du discours. Et mon intention dans cette partie est de est pas très clair en fait. Donc est d'aller peut-être plus en profondeur dans la compréhension de cette proposition de chemin spirituel qui est offerte dans le bouddhisme, tout en et de garder en fait le lien avec ce cadre qui a été présenté dans le premier discours et qui vient du premier discours du Bouddha. Et en fait, je voudrais commencer avec une blague de quand j'étais petit. Et je m'en suis rappelé il y a quelques années, je l'ai utilisée déjà plusieurs fois dans les discours parce que je trouve qu'elle est très parlante. Et donc la blague, c'est... C'est dans un asile psychiatrique et c'est un homme qui se prend pour un ver de terre. Et du coup, il a des consultations et tout ça, mais bon, ça va pas très bien. Et il a plein de peur, surtout il a peur du coin où il y a les poules. Et donc, c'est pas très vivable en fait. Et donc, il reste là. Et puis, chaque année, il y a un conseil avec les médecins et tout ça. Alors, on s'occupe bien de lui, comment est-ce que vous allez et tout. Ben, ça va. Et puis... Puis souffle les poules là, ok. Bon, alors vous pensez, vous êtes qui? Eh ben, moi je suis un ver de terre. Et, bon, ok. Bon, vous allez rester encore un peu avec nous. Et puis voilà, quand même, il a des gens plein de compassion autour de lui et tout ça qui prennent soin et tout. Et puis il va mieux. Et puis à un moment, peu à peu, il entend la notion et il est convaincu qu'en fait il est un homme. Et donc voilà, il prend l'assurance et tout, et puis on vient le voir, et à un de ses conseils avec les médecins, il dit ben oui, je suis un homme, je suis un homme. Et puis alors les médecins sont tout contents, hein, parce que ça a bien fonctionné et tout, il dit ben vous allez pouvoir rentrer chez vous et tout, bon ben, c'est super. Donc il fait son petit bagage et tout, et puis il y a un médecin qui l'accompagne vers la grille, et puis alors, et puis là, juste devant la grille, il y a les poules. Et là, il a un moment derrière, il fait bon, ok, je sais que je suis un homme, moi, maintenant, mais est-ce que les poules le savent? Et je pense que c'est une bonne notion un peu de notre situation, en fait. D'une certaine façon, bon, c'est une imagerie, mais c'est un peu, au fond, la proposition de la cause la plus profonde de notre souffrance ou de tous nos petits malaises, de tous les petits quand on n'est pas vraiment ajusté avec les choses telles qu'elles sont, nos petites résistances, pas forcément les grosses souffrances, restons aussi avec les toutes fines, celles qu'on ne connaît même pas encore parce que elles sont tellement fines qu'on les a pas remarquées, elles sont habituelles. Mais là, cette raison d'être toujours un tout petit peu en tension à gauche ou à droite vient dans le texte qu'on a lu, vient du désir, mais le désir lui-même viendrait d'une confusion, d'une illusion. On entend souvent parler de la notion de l'illusion, ou de la racine fondamentale même du désir serait l'ignorance de notre véritable nature, l'ignorance de la nature de la réalité. Ignorance, mais pas simplement ignorance comme s'il y avait quelque chose qu'on ne sait pas et le reste on sait, mais une ignorance qui est en fait remplie de croyances du coup, que les choses sont comme ci et les choses sont comme ça. Et ces croyances qui sont prises pour acquis, parce que c'est des croyances qui nous viennent depuis, pour certaines depuis les temps immémoriaux, on s'est construit comme ça en tant que civilisation, en tant qu'être humain, et des croyances à propos de notre nature et de la nature de la réalité qui ne s'ajustent pas bien, ne fonctionnent pas bien avec ce qui se produit dans notre quotidien. Et ça génère une tension. Et donc c'est pour ça que dans ce chemin proposé par le Bouddha avec les quatre nobles vérités, on retrouve dans... la quatrième noble vérité étant le chemin qui mène vers la libération. Ici, on pourrait entendre la libération des malentendus, la libération des confusions. Ce chemin est la compréhension du sentier octuple, comme on l'a vu. Mais le premier point du sentier octuple, c'est la compréhension juste, la vision juste. Et il semble que celles-là, elles sont toutes importantes, comme je le disais, et interdépendantes, les 8 points du sentier octuple sont indépendants, mais la compréhension juste, la vision juste, semble un peu comme l'endroit où ça pêche. Et du coup, je vous les relis, donc la compréhension juste ou la vue juste va entraîner la pensée juste. La pensée juste étant pensée, et parfois c'est traduit par pensée et par émotion. C'est intéressant parce que nous, on a souvent, on sépare bien les deux, mais en fait, une pensée génère une émotion est en lien avec une pensée, les deux sont un peu inséparables. Et donc, pensée et émotion, ici, c'est la pensée juste ou l'émotion juste, c'est-à-dire la pensée qui ne construit pas de souffrance ou l'émotion qui ne construit pas de souffrance. La pensée. Ce qui veut dire que quand on a un type de pensée qui construit de la souffrance, on apprend à ne pas la nourrir de notre attention. Parce qu'elle n'a pas de lieu d'être. Quand on a une pensée qui est complètement déraisonnable, qui construit de la haine, qui construit un sens de séparation avec l'autre, quand on a ce genre de pensée, on apprend juste à ne pas les nourrir. Parce qu'elles servent à quoi? C'est quoi leur raison d'être à ces pensées? Elles nous font du tort, elles font du tort à autrui. Elles ne nous permettent pas d'évoluer sur notre chemin. Dans quelle mesure est-ce que ce genre de pensée a besoin d'être nourri? Hein, donc là, il y a un discernement à avoir. Mais ces pensées-là viennent, et on apprend à ne pas les nourrir, mais quand il y a la vision juste et la compréhension juste, il n'y a plus de raison que ces pensées viennent. Et du coup, on n'a plus besoin d'essayer de ne pas les nourrir. Parce que là, si la vision est juste, c'est-à-dire... De nouveau, pas en tant que vérité ultime. On a la vérité, ça c'est la vision juste, et les autres ne sont pas justes. Non, la vision juste étant celle qui ne construit pas de pensées déraisonnables, de pensées souffrantes, de pensées qui font souffrir. Donc une autre manière de comprendre et de décoder l'expérience d'être humain. Alors, ici, on peut aller, et c'est un chemin d'une vie dont je vous parle. On fait une journée ici de méditation, c'est important, c'est marcher sur notre chemin, mais il faut rester ouvert à l'immensité de ce qu'on aborde en fait. L'immensité de la remise en question de ce qu'on aborde. Et c'est une remise en question qui se fait petit à petit. Donc la compréhension juste, ben, s'il y a la compréhension juste, ça va être automatiquement beaucoup plus simple de trouver la parole juste aussi. On va avoir moins, dans la mesure où quelque part, notre manière de nous concevoir, de nous penser, de nous imaginer, de nous envisager et d'envisager ce monde, dans la manière où c'est une vision qui ne construit pas de souffrance. Ben, la parole ne va pas construire de souffrance. La parole juste va être une parole qui sera automatiquement bienveillante. Bienveillante ne veut pas toujours dire gentil bisounours. Ça, parfois, ça peut être carré et dire quelque chose de très clair à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Mais ça sera bienveillant. Parce qu'il n'y aura pas de raison, en fait, d'avoir une parole malveillante. Les raisons pour avoir des paroles malveillantes viennent du fait qu'il y a en nous de la confusion. Vous voyez un peu où là le sentier octuple il s'aligne et il s'aligne tout sur la compréhension juste. Les moyens d'existence juste de la même manière. Peu à peu, si on a une vision, si on a une vision du monde, une compréhension, un décodage du monde, une histoire, une herméneutique, une manière d'envisager ce monde qui ne construit pas de souffrance, on ne va pas pouvoir continuer à travailler d'une manière qui abîme l'avenir de nos enfants, par exemple, hein, juste pour prendre un exemple. Donc, automatiquement, on va trouver autre chose. Tout ça va s'aligner de lui-même, en fait. On va bien sûr y réfléchir et faire des démarches dans ce sens, mais c'est la compréhension juste et la vision juste qui va donner la direction. Donc ça, c'est toute la partie éthique, en fait, qui va être réglée par la compréhension juste par elle-même. C'est parce que sinon, si on n'a pas la compréhension juste, on est obligé d'avoir un kit complet de ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, et de faire d'utiliser la discipline parce qu'on y croit dur comme fer, que ça c'est bien et du coup d'essayer d'être bien, et ça c'est mal, du coup d'essayer d'être mal. C'est pas le même mouvement d'amour que d'être bien aligné parce qu'on a une vision du monde qui ne crée pas de souffrance. Et cette vision du monde, et c'est ça qui est super, c'est que cette vision du monde, c'est pas du tout une prétention que le monde est comme ça. C'est pas une prétention que le monde est comme ça, c'est pas une prétention de vérité. C'est juste une prétention d'avoir trouvé un système d'interprétation qui fonctionne bien. Parce que dire qu'on peut connaître la vérité du monde et la vérité de la vie, à mon avis, c'est de la simple prétention. On cherche à avoir un narratif de l'histoire dans laquelle on se trouve et un narratif de nous-mêmes qui fonctionne. C'est-à-dire qui ne crée pas de souffrance, qui est noble, digne, qui inclut plutôt que d'exclure. Et bien sûr, à ce moment-là, quand on a un narratif qui fonctionne et qui ne nous met pas sous pression et sous tension, ben la pleine conscience est beaucoup plus simple. Il n'y a plus toutes ces pensées qui prolifèrent et tout, où on se sent remis en question. Pourquoi on se sent remis en question? Parce qu'on se pense comme des êtres complètement séparés. C'est dans notre culture, de toute façon. On se pense comme des êtres totalement séparés. On n'inclut pas cette part de nous-mêmes qui n'a pas cette séparation avec d'autres. Et ça, si on peut l'envisager, commencer à l'imaginer et la réaliser, à ce moment-là, il va y avoir moins ce sens de séparation, de besoin de se défendre, de besoin de devenir quelqu'un, de besoin de réussite. Et tout ça, toutes les pensées qui viennent avec ça et qui sont générées par ces besoins erronés, finalement, qui sont créés par une névrose, par vraiment un manque de clarté, une confusion, eh ben, ça ne vient plus. Et où va l'attention alors? Ben, à ce qui est en train de se passer en ce moment. Où est-ce qu'elle irait? Elle va être là où on est. Il y aura beaucoup moins de réactivité du coup. Et du coup, beaucoup moins de mal-être. Et tout ça, si on réussit à un peu mieux comprendre et harmoniser la vision qu'on a du monde et de nous-mêmes. Sans prétendre que c'est trouver la vérité ultime. Et c'est ça que je trouve beau dans le bouddhisme. C'est que dans les enseignements du Bouddha, il n'y a pas cette prétention. Parce que la nature de la réalité est en vacuité, elle n'est pas, elle ne va pas être exprimable. La réalité, c'est ça. Non. On va plutôt dire, et si on la voit comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça ouvre le cœur. Ok, ben voyons-la comme ça. Parce que de toute façon, on fonctionne dans la réalité avec une manière de voir qui est implicite, dans le sens où on ne l'a pas apprise du temps où on était conscient, qui a été transmise notamment par la génétique, et puis qui a été beaucoup acquise dans la période préconsciente où on était un petit bébé, hein, où on a intégré énormément de manières de se concevoir et de concevoir le monde et de tout expliquer. On a créé toute l'histoire dans laquelle on vit qui est un héritage. Et donc, en fait, on ne peut pas dire que la manière dont on a toujours une. On fonctionne toujours avec des hypothèses qu'on prend pour acquis. En fait, toute notre manière de nous voir, nous, notre image de nous, c'est une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. C'est une construction. Et ce n'est rien d'autre qu'une construction. La manière de se voir, la manière de se connaître. Et cette construction est nécessaire. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Mais il faut qu'elle soit bien. Il faut qu'elle soit sympa pour nous et pour les autres. Et de la même manière, pour le huitième point, la concentration, ben la concentration qui est en fait la partie un peu méditation, où assis en méditation, il va être beaucoup plus simple d'aller vraiment en profondeur. Parce que l'attention va être beaucoup plus stable quand il n'y a pas toute cette image de moi qui est tout le temps soumise à un besoin de devenir, un besoin d'être autre chose, ou toutes les petites blessures qui peuvent s'exprimer et tout ça. Donc on voit qu'il y a cette notion d'interdépendance, en fait, entre les huit points, et avec une importance sur la manière dont nous concevons la réalité, dans la manière dont nous concevons le monde. En tant qu'individu, on peut faire la même chose en tant que société. Une société a une conception de la société occidentale, a pour le moment un type de conception du monde qui est très différent de celle qu'on avait au XVe siècle, XVIe siècle par exemple, ou encore très différente de nos ancêtres. Et ça joue énormément sur la manière dont on répond à chaque situation, et la manière dont on ressent, la manière dont on pense et la manière dont on agit. Individuellement comme collectivement, la manière dont on pense, dont on ressent et dont on agit dépend de la manière dont on interprète ce qu'on perçoit. Et cette interprétation, elle est subjective. C'est-à-dire qu'elle est, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est malléable. Elle est transformable. On peut l'adapter. Donc c'est à nous de repérer les interprétations qui sont toxiques, par exemple, et de les transformer en interprétations qui soutiennent. Et c'est à nous de repérer les interprétations qui soutiennent et qui ouvrent, et à leur faire de la place, à leur donner plus d'importance, à les nourrir. Voilà une interprétation, une herméneutique de ce premier discours du Bouddha. On pourrait le comprendre comme ça. Alors ça, de nouveau, on est de nouveau dans la souffrance. Donc quand on remarque une souffrance, quelle est la cause de cette souffrance? Eh bien, souvent, la cause, ça va être une manière d'interpréter une situation. Par exemple, je croise mon voisin, je lui fais un sourire, il répond pas à mon sourire. Si, peut-être que je vais me dire qu'en fait, il m'en veut parce que l'autre jour, j'ai garé ma voiture là-bas, ou qu'il m'en veut parce que quand j'ai repeint mon portail, j'ai fait des... Enfin, quoi que ce soit. Et du coup, je vais me sentir en tension. Peut-être je vais du coup commencer toute une défensive dans ma tête de oui, mais lui, l'autre fois, ceci, cela. Hein, comme on l'a vu. Mais donc tout ça va naître et je peux gérer cette émotion-là. Je peux gérer l'émotion, je peux ressentir une émotion de me sentir agressé ou sentir la colère et du coup pratiquer la pleine conscience, par exemple, et essayer de ressentir pleinement cette émotion. Et c'est important de faire ça. C'est une approche de l'émotion. D'accord? Ça, c'est possible. Je peux aussi pratiquer la bienveillance, qu'on verra la semaine prochaine, pour ceux d'entre vous qui connaissent, et du coup, envoyer de la bienveillance à ce voisin, et m'envoyer de la bienveillance à moi qui me sens sous pression. C'est encore une autre approche qui est proposée aussi par le bouddhisme. Et une troisième approche, c'est de trouver une interprétation qui fonctionne mieux, de me dire peut-être, ben, mon voisin, si ça se trouve, il a mal dormi ou il m'a pas vu. Et du coup, je ne construis pas tout ça. Hein, ça, c'est encore une possibilité. Peut-être, en fait, il m'a pas vu, ou alors il s'est disputé avec sa femme, ou il était simplement pris dans sa tête, et il m'a pas vu. Et peut-être, si ça se reproduit le lendemain et le surlendemain, cette interprétation fonctionne, ce modèle d'interprétation ne fonctionne plus, je passe à un autre, qui est peut-être de dire, plutôt que de construire des trucs dans ma tête, je vais aller le voir et discuter avec lui. Mais toujours trouver la perspective qui va empêcher cette prolifération de construction mentale qui génère un mal-être. Repérer quand, en fait, on est en train de rentrer dans une manière de voir qui crée de la souffrance. Et trouver une manière de voir qui est plus intelligente, plus sensible, et qui va empêcher qu'une situation devienne de plus en plus souffrante pour moi et pour les autres. Donc c'est vraiment à tout niveau. Hein, ça peut se pratiquer à ce niveau tout à fait de notre quotidien. Avec soi-même, avec notre conjoint, avec nos voisins, avec les gens qu'on aime, on a beaucoup de tensions avec les gens qu'on aime, bien sûr. On en a déjà tellement juste quand on est tout seul, alors quand on est deux. Et du coup, de trouver une, de ne pas laisser, de ne pas, donc la deuxième des huit chemins, c'est de ne pas nourrir les pensées qui génère de la souffrance, donc de ne pas laisser les pensées de ressentiment, par exemple, grandir. Avoir une conscience de ça et ne pas laisser. Expliquer les situations autrement, et essayer d'aller clarifier ce qui a besoin d'être clarifié quand c'est en relation, essayer d'aller clarifier avant que chacun dans son coin ne construise un monde, parce que c'est ça qui se passe. Et on le connaît tous. Parfois, on peut avoir une difficulté avec quelqu'un et puis on ne le voit plus pendant 15 jours. Oh là là, on peut vraiment faire une trilogie, hein. Il y a moyen de. Ça se développe et ça se développe et ça se développe. Et il faut enrayer ça. Enrayer ça par la pleine conscience, enrayer ça par la pratique de la bienveillance, enrayer ça par la conscience des émotions, enrayer ça par le fait de changer le narratif, l'interprétation, trouver un narratif qui va mieux fonctionner et qui va nous faire aller vers la non-construction du ressentiment et vers une résolution. C'est-à-dire peut-être aller parler, c'est souvent ça. Et en faisant ça, en fait, on pratique finalement, c'est accessible pour nous, ce chemin de pensée, parce que c'est en résonance avec la démarche scientifique. La démarche scientifique qui est, par exemple, prenons l'histoire de la relativité restreinte et de la relativité générale. Elle est magnifique, cette histoire. L'histoire d'Einstein, je trouve super inspirant, en fait, cet homme. La relativité restreinte, c'est en 1905 qu'il découvre, en fait, la réalité restreinte. Et comment il découvre ça? Ben parce qu'Einstein, déjà, il avait l'habitude de faire des espèces de... il appelait ça ses siestes, mais c'était des siestes sur un tabouret sans s'appuyer, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faisait pas de méditation, hein, mais il se mettait dans sa sieste, et puis il était passionné. De toute façon, sans la passion et sans la curiosité, il n'y a pas de chemin. Il n'y a aucune technique que n'importe qui peut enseigner qui va fonctionner pour personne. Je ne sais pas si c'était français, ça, de vous. J'en fais parfois, mais vous me voyez. Mais aucune technique, on ne peut pas dire, tiens, pratique cette technique et tu parviendras à l'éveil, le fameux éveil du Bouddha. Non, il faut la curiosité et la passion. Et Einstein, il avait ça. Il ne pensait qu'à ça. C'était son truc, c'était de comprendre le temps. C'était le temps et du coup, il en est venu à l'espace-temps. Et donc, il s'imaginait régulièrement assis sur un rayon, sur un brin de lumière à 300 000 km seconde. Hein? Et il se demandait ce qu'il voyait alors. Ah, Einstein disait, en fait, comment vous avez fait pour, quand on lui demandait, comment vous avez fait pour avoir vos réalisations? Il disait, en fait, je me suis construit tout doucement et du coup, je suis resté enfant plus tard. Mais c'est ça qui, c'était sa réponse. Hein? Et donc, assis sur son tabouret, un jour, hop, il a eu cette réalisation que s'il était assis sur un brin de lumière à 300 000 km seconde, et ben du coup ceux qui verraient, les images qui verraient autour de lui, iraient à la même vitesse que lui, ne bougeraient pas, et donc que l'espace et le temps sont en lien. Donc plus on va vite dans l'espace, moins on va vite dans le temps, et vice versa. C'est un peu difficile à comprendre, pourtant ça fait déjà une centaine d'années, hein. On n'y est toujours pas. Nous, on est toujours avec la physique de Newton, parce que celle-là, c'est plus simple pour nous, parce qu'elle est plus proche de notre expérience du quotidien. Bref, en 1907, il a un pote qui lui dit « Ça serait quand même bien que tu nous refasses un papier un petit peu plus complet de ta théorie de la relativité. » Et alors, il se met à écrire. Et là, il se rend compte qu'il a un problème, Einstein. Il a un problème parce que tout est basé sur le fait que rien ne va plus vite que la lumière. 300 000 km seconde. Rien ne va plus vite que la lumière. Ça, c'est une constante et la seule constante. Tout le reste est relatif. La lumière, non. La vitesse de la lumière, non. Et là, il a, toujours dans la physique classique, la loi de Newton sur la gravité, qui est que deux corps s'attirent par une force, l'effet d'une force instantanée. Une force instantanée, c'est-à-dire en dehors du temps, donc c'est-à-dire plus vite que la lumière. Et ça, du coup, ça fout toute sa théorie en l'air. Ça ne fonctionne plus. Ah, ça a dû être une grande période de dépression. Mais en même temps, c'est une crise intellectuelle pour lui, mais toujours, hein, c'est ces crises qui sont la possibilité d'aller vers un modèle plus complet, plus fin. Il a découvert un truc qui ne fonctionnait pas, il a dit, comment est-ce que je pourrais le faire fonctionner? Il a cherché jusqu'en 1915, 8 ans, 1915, de nouveau sur son tabouret. Il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé la notion de force par la notion de forme dans l'espace. Donc, c'est-à-dire que si un corps qui passe près d'un autre est plus gros, est attiré par cet autre, c'est parce que l'espace est déformé. L'espace a une forme. Et donc, ce n'est plus une force qui attire deux corps, c'est qu'il y a simplement des espèces de trous autour des planètes lourdes et que la lumière qui passe est attirée et du coup, ça la dévie. Parce qu'elle n'est pas attirée, en fait, elle est déformée par la forme de l'espace. Du coup, ça c'est la... Donc, Il trouve là la relativité générale. Du coup, la première était restreinte parce qu'elle ne fonctionnait pas avec la gravité. Il trouve une théorie qui fonctionne mieux. Vous voyez, une théorie qui fonctionne mieux. Pourquoi? Parce qu'on fait des tests et qu'est-ce qu'on voit? Que ça permet de mieux prévoir et d'avoir plus d'harmonie dans la manière dont on comprend le fonctionnement du monde. Donc la théorie de Newton et beaucoup de théories de Newton sont mises au placard. Elles ont été super jusque-là. On a appris énormément. Merci Newton. Mais maintenant on passe à autre chose parce qu'on est dans une nouvelle théorie. Oui, donc en fait, nous, c'est le même fonctionnement. Imaginez bien la théorie d'Einstein. Personne n'a jamais vu la gravité. C'est un concept invérifiable. Tout ce qu'on voit, c'est que les corps célestes se déforment quand ils passent près d'un corps plus. Ils déforment leur trajectoire quand ils passent près d'un corps plus lourd. Mais alors, on se dit, ah ben ça doit être une force. C'est deux forces. Et avec ce qu'on se dit, on a un résultat. Et puis là, on considère qu'il y a des trucs qui ne sont pas très précis. On change la manière dont on considère les choses et on réessaye nos calculs et ça marche mieux. Ça, c'est la méthode scientifique. Ça ne veut absolument pas dire que ça décrit la réalité. C'est juste des modèles qui nous permettent de travailler avec. Ce n'est pas une description de la réalité. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Nous, on cherche des modèles qui fonctionnent pour pouvoir vivre. Ce n'est pas une description de la réalité. Il n'y a pas de description de la réalité, c'est vacuité, c'est vide. La réalité sera le modèle qu'on crée. Peut-être. Ah là, je vais loin là. Donc, dans cette notion de vacuité, il va y avoir la notion que on va créer un modèle et que ce modèle va générer des tensions ou non. Je vous amène déjà à la cinquième séance, c'est la première. Donc en fait, toutes les propositions, on peut le voir comme ça, et c'est comme ça que j'aime le voir, et c'est comme ça que je décode la proposition du Bouddha, surtout la proposition de la vacuité, c'est que ce sont toutes des propositions de système pour voir, décoder ou créer. La nuance entre concevoir et percevoir est hyper complexe. Dans quelle mesure est-ce qu'on conçoit la réalité? C'est-à-dire qu'on la crée. Dans quelle mesure est-ce qu'on perçoit une réalité qui existait déjà? Quel est le mélange entre les deux? Il y a une osmose, une harmonie et un jeu de création là qui nous échappe complètement. Mais donc toute proposition spirituelle va être une grille de décodage ou une manière d'appréhender ou une manière de créer une vision. Et donc les quatre nobles vérités, le chemin du milieu, le sentier octuple, l'interdépendance, ne sont pas à considérer comme des vérités ultimes et indiscutables, mais comme quand on amène cette sagesse dans notre regard, quand on voit les choses à travers la sagesse de ces systèmes, eh bien, ça ne crée plus de tension. Si c'est le cas, à ce moment-là, c'est juste parce que ça ne crée pas de souffrance. Il ne s'agit pas ici, donc, c'est important de le dire et de le redire, parce que souvent on entend l'inverse, de créer un système, de parler d'une description des choses telles qu'elles sont. Et ces fondements du bouddhisme nous permettront de comprendre. Après ça, viendront se rajouter l'impermanence, le non-soi, le lâcher-prise, la bienveillance, la pleine conscience, la saisie, la nature de la réalité, la prière, la prosternation, l'étude des textes, l'éthique. Tout ça va trouver sa place dans ce cadre et peu à peu former une manière d'aborder ou de générer le monde. Le monde phénoménologique, c'est-à-dire le monde tel qu'on le perçoit en nous. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. On ne saura jamais comment le monde est en dehors de mon expérience. Hein, et ça, Ça, lisez un petit peu ce qu'en disent les scientifiques actuels, et pas simplement la physique quantique, la physique du tout petit, mais même déjà les scientifiques dans la fin des années 1800, début des années 1900, ou allez même voir jusque Galilée, tout ça est déjà bien clair. On ne peut pas présager de la réalité du monde en dehors de notre perception. On ne peut pas présager de ça. On ne peut pas, alors il y a des grands débats sur est-ce qu'il y en a une ou non, mais en tout cas, tout le monde est bien d'accord pour dire que la manière dont on l'aperçoit, on ne peut pas prétendre que c'est une reproduction fidèle de ce qui est là-dehors. Donc on appelle ça la réalité phénoménologique, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est perçue en nous. Voilà, et le non-faire, et l'unité, tout ça va tout être des choses dont on a entendu parler. Hein, l'unité, le non-faire, le samadhi, la lâcher prise et tout ça, qui vont peu à peu venir faire un ensemble cohérent qui nous permet d'aborder et de créer. Aborder, créer, toujours, on ne saura jamais si c'est plus aborder, plus créer. Si... Mais en tout cas, de vivre l'histoire de notre vie d'une façon qui génère de l'ouverture de cœur, de l'ouverture d'esprit, de l'accueil, du vivant, plutôt que de la fermeture, du resserrement, de la tension, de l'exclusion. Voilà ce qui est entendu par le mot juste de nouveau dans le Eightfold Path, le chemin. Il me vient toujours en anglais parce que je l'ai beaucoup, je le pense en anglais beaucoup, mais dans le noble sentier octuple ou le sentier octuple des nobles. Et du coup, c'est beau le sentier octuple des nobles. Je vais essayer de le changer dans ma tête. Je l'aime bien le sentier octuple des nobles parce que je trouve qu'il y a une réelle noblesse à vouloir considérer les choses comme ça. Il y a une réelle noblesse. Et alors que le noble sentier octuple, il y a tout de suite quelque chose d'un peu plus prétentieux, je trouve. Je vais essayer de le changer. Donc il y a une grande, grande, grande sagesse dans la compréhension de ces quatre vérités des nobles. Il y a une grande sagesse parce que ça donne une cohésion à pourquoi changer notre regard et dans quelle direction changer notre regard. Et sur la recherche, pourquoi chercher la nature de la réalité, par exemple. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé donc, ces derniers temps. J'ai passé un peu de temps dans le monde avec certains philosophes. Parce qu'on travaille ensemble à essayer de mettre sur pied de pouvoir amener plus la méditation dans les écoles, avec des philosophes. Méditation et philosophie dans les écoles. J'ai fait une formation qui a un projet qui a été mis sur pied par Frédéric Lenoir et qui est très, très répandu maintenant, qui s'appelle Sève. Et donc, suite à cette formation, j'ai rencontré quelques philosophes, dont Michel Tozzi, qui est un philosophe qui a créé, lui, l'école française, en fait, de philosophie dans les écoles, qui fait philosophie pour enfants, philosophie dans le sens pas étudier les philosophes, mais débattre ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais donc, j'ai été ces derniers temps plus en contact avec des philosophes qu'avant. C'est un monde que je ne connaissais pas. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'ils ont un vocabulaire. Alors, je ne comprends rien. Je reçois des lettres auxquelles je dois répondre. Je ne comprends rien. Non, mais c'est fantastique parce que les mots sont tellement précis et pointent à des concepts qui m'échappent de temps qu'en fait, j'ai besoin de beaucoup apprendre. Et je trouve ça magnifique. Par contre, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas la cohérence des quatre nobles, qu'amènent les quatre nobles vérités, la cohérence du but. On dirait que c'est juste la connaissance pour la connaissance, pas pour la transformation de l'humain vers quelque chose de vachement plus sympa. C'est juste la connaissance. Il manque. J'ai du mal à pointer du doigt, mais il manque quelque chose d'essentiel. Et Mathieu Ricard, dans une interview, je l'ai vu peu après, et du coup, ça venait résonner avec ce que je ressentais. Il disait ça, parce que donc Mathieu Ricard, qui est le moine bouddhiste français qu'on voit partout, qui fait du super travail, qui a été élu l'homme le plus heureux de tous les temps, et qui est l'homme le plus scanné de tous les temps aussi, parce qu'on fait des scanners pour les neurosciences de son cerveau. Et qui disait, lui, donc son père est philosophe, il a fait un bouquin d'ailleurs, Le Moine et le philosophe, Et donc il a grandi parmi les philosophes et il a beaucoup appris, je pense, dans les tournures d'esprit qui sont très importantes. Si on veut transformer notre compréhension, il faut beaucoup de finesse. Donc il a beaucoup appris, mais il disait quand il est arrivé dans son premier monastère, là, il y a quelque chose qui l'a vraiment frappé, c'est que les mecs, les moines là, c'était des sacrés philosophes déjà, parce que quand vous voyez la philosophie du Bouddha, c'est plus que juste l'instant présent, hein. Il y a beaucoup plus à aller, c'est une philosophie très très complexe. Mais il y avait aussi une incarnation dans leur quotidien, dans leur manière d'être, dans leur mouvement et dans tout ce qui rayonne, de leur recherche. Leur recherche se transplante dans leur réalité. Elle ne reste pas dans le monde de l'intellect. Et c'est cette transition qui est vachement difficile quand on pratique la méditation. C'est cette transition parce que quand on pratique la méditation, on entend beaucoup de discours. Mais comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la transformation et à ce que ça s'incarne vraiment? Et ça, c'est une question qui est peu posée, je trouve, dans le monde de la philosophie, dans ce que j'en côtoie en tout cas. Comment est-ce qu'on peut être transformé par le changement de nos conceptions? Comment est-ce que ça peut vraiment s'incarner? Et là, la méditation aussi a un rôle, à sa place dans la manière d'amener nos conceptions dans notre quotidien. Et le rôle de la méditation, là, qui du coup, c'est pour ça, à mon avis, qu'elle fait partie du noble sentier octuple, c'est pas simplement de poser l'esprit. Oui, c'est de poser l'esprit, et c'est super important. Et de toute façon, sans ça, il n'y a rien qui va marcher. Poser l'esprit. Deuxième activité essentielle en méditation, observer, apprendre par l'observation, par le contact direct avec notre corps, contact direct avec qui est notre corps qui quelque part a cette existence indépendamment de l'image qu'on en a, de le contacter et d'essayer de le contacter au plus proche du ressenti, la respiration, voir ce qui émerge dans les pensées, de manière à être au courant. Entendre comment les sons ont un impact sur comment on se sent, sur notre monde émotionnel. Donc en fait, observer, pas simplement poser l'esprit, mais voir ce qui se passe, amener de la clarté dans notre expérience. Hein, voilà une deuxième fonction de la méditation. Mais une troisième fonction, qui elle est beaucoup moins... qui est moins explicité, dont on parle moins, et qui est pour moi plus récente aussi, que je comprends vraiment d'une façon plus récente, c'est de faire l'expérience de nos concepts dans notre quotidien, dans notre vécu. C'est-à-dire qu'en méditation, on peut expérimenter différentes manières de voir et ressentir ce que ça nous fait. On fera une méditation guidée où je vais guider ça. Je vous guiderai d'une manière de voir à l'autre et vous verrez pour vous-même si ça induit un changement dans la manière de percevoir et dans la manière de se ressentir. C'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un passe dans le couloir et ne répond pas à mon bonjour. Si je me dis que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal et qu'il me le reproche ou qu'il croit que j'ai fait quelque chose de mal et tout ça, je vais avoir un certain ressenti. C'est une manière de voir. Je n'ai aucune certitude de ça. Et si je me dis, par contre, que le pauvre, il a mal dormi et il a l'air en plus très préoccupé, je vais plutôt ressentir de la compassion pour lui. Et j'ai changé de manière de voir. Et à l'intérieur de moi, ça change tout. Parce que je vis de l'amour au lieu de vivre de la fermeture. Vous me suivez? C'est juste, ça n'a rien changé dans la réalité, telle qu'on appelle la réalité. Mais ça a changé tout. Parce qu'on a juste changé la manière dont on appréhende. On a changé le descriptif, le narratif. Et ça, on peut expérimenter avec ça en méditation. Et à mon avis, c'est ce qu'on fait tout le temps, sans vraiment le savoir. Si on pratique par exemple la compassion, ce qu'on fera la semaine prochaine, on fait l'expérience de voir avec amour. Et on voit comment on se sent. Et si c'est bien, et si ça a l'air fructueux, on en fait plus dans notre réalité. Et la quatrième fonction de la méditation, c'est quand on a trouvé une manière de voir qui fonctionne bien, parce qu'elle ne crée pas de souffrance, parce qu'elle crée elle génère de l'ouverture, eh bien, on la répète et on la pratique. Parce que c'est comme ça qu'elle s'ancre. C'est comme ça qu'elle devient notre seconde nature. C'est comme ça qu'elle devient notre manière de voir par défaut, automatique, immédiate, accessible. Parce qu'en méditation, on y est revenu encore et encore et encore. Et du coup, ça, c'est une pratique. Donc, je suis bien conscient que, voilà, il y a beaucoup dans ce que je dis. Hein, il y a beaucoup, et puis ça peut paraître vaste, immense, parfois inaccessible et tout. Si vous sentez que ça vous déborde et tout ça, je pense qu'il faut vraiment y aller avec tranquillité et douceur, en fait, rentrer avec tranquillité et douceur, mais aussi de se laisser ressentir qu'est-ce qui vous touche dans ce qui est dit là. Et de laisser. Si parfois, je sais et je me rappelle que parfois, on peut avoir deux mouvements en même temps, un mouvement de pouf, ça a l'air immense ou très très compliqué, et en même temps un mouvement de ah, ça me séduit, il y a quelque chose qui me parle là-dedans, il y a quelque chose qui me parle. Et bien de rester avec ça sans trop projeter dans tout ce qu'il va falloir faire ou comment ça va être pour amener en fait tout ça dans mon quotidien. Déjà être en train de se dire il va falloir que je médite 2 heures par jour là et faire comme ça. Non, juste de se laisser ressentir là. Dans ce qui se dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble juteux, comme attirant? Si oui, qui met en joie, qui vibre bien dedans. Si oui, il faut rester un peu avec ça. Parce que ça va nous donner en fait l'énergie dont on aura besoin pour aller explorer. Ces manières de voir, en fait, elles sont multitude. Tout est manière de voir. Tout est manière de voir. N'importe quel. En fait, si on prend le point de vue empiriste, le point de vue empiriste étant la perception des cinq sens, juste les cinq sens. Donc la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Les cinq sens. On a cru pendant tout un temps qu'avec les cinq sens, on pouvait connaître la réalité. Et que c'était la réalité, c'était les cinq sens. Mais en fait, les cinq sens ne font percevoir que des vibrations dans tous les sens, et il faut derrière qu'il y ait une reconstruction de l'image. Cette reconstruction de l'image est déjà une manière de voir. Il y aurait déjà différentes options. Ça se fait, on n'est même pas encore conscient qu'on a vu quelque chose. Nous, ce qu'on voit, c'est la finalité de la reconstruction. D'accord? Donc, à tout niveau, il y a toujours une manière de voir en action. Et il n'y a pas besoin que ce soit une pensée. Une manière de voir n'est pas forcément une pensée. C'est même un ressenti. C'est même intuitif, les manières de voir. Par exemple, le fait de se voir comme étant humain. Même en méditation. On est en méditation. Un moment béni, l'esprit se pose. Ça arrive. À ce moment-là, il peut y avoir une sensation, mettons. Pour certains, il peut y avoir une sensation lumineuse, il peut y avoir une sensation vaste. En tout cas, ce qu'il y a, en général, c'est une sensation de bien-être. Il y a aussi une sensation de contact avec soi-même. Dans ce moment-là, il peut ne plus y avoir de pensée. Mais il reste la sensation je médite ou la sensation je suis. Ouais, ça aussi, ça peut être une manière de voir. Ça aussi, ça peut être une manière habituelle d'interpréter cette conscience présente. Je suis. Et il n'y a pas besoin que dans la tête, il y ait un petit je suis. Il n'y a pas besoin d'une pensée pour ressentir ça. Et donc les manières de voir sont présentes à tout niveau de notre expérience. À tout niveau de notre expérience. C'est difficile de prendre des exemples parce que c'est tout. Donc, il n'y a pas. Je disais, une manière de voir racine, celle vers laquelle on va cheminer pendant ces 5 retraites, ça va être la vacuité et le non-soi. C'est une manière de voir qui va permettre, en fait, de laisser énormément de liberté. Énormément de liberté. Mais il y a entre les manières de voir telles qu'on les a maintenant, de je suis ceci, je travaille là, je suis né ici, mon père est ça, et le monde est comme ceci, et moi je crois plutôt en cela. Enfin, toutes les manières de se concevoir et de concevoir le monde. Entre cette manière de voir-là et la vacuité, il y a toute une palette de manières de voir qui sont super utiles, même si elles ne sont pas forcément les plus profondes. Prenons par exemple de nouveau le moment présent. Le moment présent est une manière de voir. Quand on se rappelle, ah oui, se connecter au moment présent, c'est hop, directement, ça change la manière dont on perçoit ce moment. Ça nous amène en contact avec ce qui est en train de se produire. Donc, le moment présent est une manière de voir. Ce n'est pas une manière de voir ultime, parce que le moment présent, par exemple, construit, moi, en tant que sujet qui perçoit ce qui est en train de se passer, construit le passé et le futur, parce que pour qu'il y ait un moment présent, il faut qu'il y ait un passé, il faut qu'il y ait un futur. Donc ça induit énormément de choses. Donc c'est super pratique, parce que c'est facile en plus, le moment présent, et du coup c'est à utiliser un maximum, mais à ne pas prendre comme une vérité ultime, dans le sens où on aura après des manières de voir. Et ça, on verra ça dans les retraites qui suivent pour ceux qui sont là. C'est on aura des manières de voir dans lesquelles le moment présent n'a plus sa place. Et on peut comprendre ça de nouveau avec la physique. On voit la physique de Newton. C'était une physique. Regardez, c'était quand dans les années 1600, 1700, 1700, qui est Newton, qui est Einstein disait, c'est l'homme de toute l'histoire de la science, des sciences, c'est l'homme qui a fait le plus d'apports. Il a créé des manières, un schéma de compréhension à tous les niveaux, des planètes jusqu'aux petits, à tous les niveaux. Il avait des explications, des mathématiques qui vont bien avec, et tout d'une grande cohérence. Et donc ça nous a permis le développement qu'on a connu, qui est questionnable, mais ça c'était des choix éthiques, c'est encore autre chose, c'est pas la faute à Newton. Donc lui a créé toutes ces manières de voir, et maintenant on se rend compte. Ben qu'il y a mieux. Mais on a eu besoin de passer par là pour aller vers la compréhension qu'il y a mieux. Et du coup, il ne faut pas jeter la pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se rend compte qu'il y a mieux, mais parfois, on a besoin de la physique de Newton parce qu'elle va fonctionner mieux, parce qu'elle est plus simple à manipuler et parce qu'elle va donner des meilleurs résultats dans certains cas de figure. Ça sera le même pour nous. On ne va pas, genre, dire, t'en es à laquelle, toi, de manière de voir? Ah ouais, niveau 4. Ah oui, ok, moi ça y est, moi je suis niveau 6, moi niveau 4, j'ai plus besoin. Jamais. On aura besoin de la manière de voir, même de l'ego. De l'ego, pas de l'ego dans le sens l'ego surdimensionné, cette espèce d'inflation de soi-même, mais d'identité très définie qui est utile pour qu'on puisse fonctionner dans ce contexte. C'est pas qu'un jour on va dire ça n'a plus aucune réalité et plus aucune nécessité. Au contraire, on va toujours avoir besoin de revenir à cette manière de voir. Mais on saura qu'elle a une place parmi une grande dimension de manière d'exister qui sont nous-mêmes. Et on pourra y revenir et la quitter. Et on va avoir plein de manières de voir intermédiaires comme ça, qui génèrent une relation avec ce qui nous entoure et avec nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que je suis en train de faire là, c'est tout à fait étayable par ce que je connais de l'enseignement bouddhiste. Ce n'est pas pour ça que c'est en accord avec tous les enseignements bouddhistes. Il va y avoir différentes écoles qui vont avoir différentes approches. On appelle ça les herméneutiques, les manières d'interpréter, l'interprétation des textes ou l'interprétation des signes. C'est l'herméneutique. Et donc, il y a ça dans toutes les religions et dans le bouddhisme, il y a plein d'écoles. Et si vous écoutez des discours ou si vous êtes familier avec des discours du bouddhisme, vous ne trouvez pas forcément cette interprétation. Elle, c'est pas du tout la plus classique. Moi, je tiens en grande partie cette interprétation d'un enseignant qui s'appelle Robert Beha, qui est décédé l'année passée. Et que j'ai eu l'occasion de rencontrer deux fois, qui est un homme, enfin, pour moi, qui est vraiment admirable dans le travail qu'il a fait, le travail d'ouverture, en fait, avec un esprit, une ouverture d'esprit extraordinaire, et dans ses enseignements qui, moi, m'ont ouvert énormément à ce que maintenant j'essaye de rendre intelligible et compréhensible pour vous. Voilà, donc juste pour dire que ça, c'est une interprétation. Hein? Et dans la mesure, l'idéal, c'est que vous preniez le temps de bien la comprendre et de voir si elle vous convient, vous correspond, et si elle est fructueuse pour vous. C'est toujours au final, on reconnaît l'arbre à son fruit. Au final, si ça ouvre, si on est plus aimant, si on est plus aimant avec soi-même, plus aimant avec les autres, si notre manière de voir nous permet de nous engager, parce que c'est super important, il faut s'engager dans cette vie. Si la vacuité, ça veut dire que le monde n'existe pas vraiment et du coup on peut le laisser tomber et laisser les choses aller comme elles sont, pour moi c'est pas fructueux. C'est tout simplement pas fructueux. Donc si les fruits sont beaux, c'est-à-dire si on marche dans cette vie avec dignité et noblesse, à ce moment-là, quel que soit, hein, quelle que soit l'approche qu'on ait choisie, christianisme, hindouisme, chamanisme, le monde musulman, ou quelle que soit la manière de voir, en fait, c'est bon, si le fruit est bon. Merci pour votre écoute.